19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
C'est une annonce à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui, quelque part, reconnaît enfin que les enseignants sont particulièrement exposés à la situation sanitaire dans les établissements scolaires.
Les enseignants auront un accès prioritaire à la vaccination à partir de la mi- ou de la fin avril. Enfin, disent les syndicats qui constatent l'explosion des cas de Covid dans les écoles.
Une nouvelle accélération de la campagne de vaccination dictée par les événements. Le chef de l'État décrète la mobilisation générale pour freiner l'emballement de l'épidémie.
Les plus de 70 ans vont pouvoir se faire vacciner dès samedi. Cela représente 3,5 millions de personnes supplémentaires.
L'exécutif qui met également la pression sur les entreprises pour qu'elles favorisent encore un peu plus le télétravail.
L'enquête sur la mort de Magali Blandin après l'émotion, la colère des proches de cette mère de famille dont le mari a avoué le meurtre. Et puis le football avec le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. France-Ukraine demain soir est déjà un premier changement pour les Bleus. L'hôtel qu'ils devaient occuper est infesté par le Covid.
Ah, la météo. Dommage. Anissa Haddadi, encore une journée printanière. Et voilà le printemps qui revient.
Après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'impose sur une grande partie du pays. Attention, le ciel va légèrement se couvrir à l'ouest et les températures seront bien plus douces demain après-midi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une promesse d'Emmanuel Macron. Les enseignants seront prioritaires pour la vaccination entre la mi- et la fin avril. Il faut dire que l'école n'est pas épargnée par les contaminations. 15 000 enfants testés positifs la semaine dernière, en hausse de plus de 50% sur une semaine.
Oui, et les profs sont aussi touchés. La difficulté de les remplacer est d'ailleurs importante. En tout cas, cette annonce présidentielle est très bien accueillie par les syndicats, à l'image de Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. On l'écoute.
C'est une annonce à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui, quelque part, reconnaît enfin que les enseignants sont particulièrement exposés à la situation sanitaire dans les établissements scolaires, chose que n'avait jamais pu faire Jean-Michel Blanquer. C'est un premier pas. Il faut maintenant que ça se traduise dans des engagements concrets, avec un calendrier beaucoup plus ferme qui permette à la vaccination de commencer dès la mi-avril. Il faut qu'on ait des précisions sur ce calendrier. Il faut aussi qu'on ait très rapidement des précisions sur l'organisation de la vaccination. Aujourd'hui, le président de la République a ouvert la porte. Il faut maintenant confirmer un certain nombre de choses.
Voilà, Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU avec Virginie Riva. L'autre annonce de la mi-journée, c'est donc l'ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans.
Et ce, dès samedi, assure le président Macron, le chef de l'État qui veut encore accélérer la campagne de vaccination, Anne Le Gall.
Exactement, 3,5 millions de Français supplémentaires sont concernés. Les 70-75 ans sans comorbidité, ils pourront recevoir leur première injection à partir de samedi, soit dans un centre avec le vaccin Pfizer-BioNTech, soit via leur médecin ou leur pharmacien avec le vaccin AstraZeneca. Ce choix d'élargir la population cible fait suite à des remontées de terrain, explique-t-on au ministère de la Santé, car dans certains centres de vaccination, les prises de rendez-vous avaient tendance à s'espacer, laissant certains créneaux libres. Pour être sûr d'écouler les doses de vaccins et au fur et à mesure de leur réception, le gouvernement a donc choisi d'élargir la population cible. Pour autant, pas question de relâcher la tension auprès des plus de 75 ans. Seule la moitié de cette population a reçu une première injection. Ils resteront donc prioritaires avec ces nouveaux un numéro de téléphone dédié à partir de samedi pour aider à la prise de rendez-vous. Enfin, l'assurance maladie doit aussi lancer une campagne d'appel téléphonique ciblée pour relancer les plus de 75 ans qui n'ont pas fait la démarche de la vaccination ou qui se sont découragés.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, il y a la vaccination, mais il y a aussi les gestes barrières. D'ailleurs, le gouvernement tente de clarifier le confinement. Cela donne une nouvelle campagne de communication qui s'intitule « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Il aimerait que les entreprises montrent aussi l'exemple en matière de télétravail, gouvernement.
Oui, l'exécutif qui met la pression sur les entreprises pour qu'elles aillent plus loin en matière de télétravail. C'est vrai, surtout les entreprises privées. Et comme partout, il y a les bons et les mauvais élèves. Et le problème, Élise Dangean, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais élèves.
Oui, alors pour resserrer la vis, le gouvernement réclame aux entreprises des 16 départements reconfinés d'établir un plan d'action écrit qui devra permettre un retour à la règle du télétravail au moins 4 jours sur 5. Sur cette base, l'inspection du travail pourra mener des contrôles. Ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les petites et moyennes entreprises que représente Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME.
Ceux qui le peuvent le font, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une véritable lassitude du côté des salariés. Eux-mêmes, maintenant, trouvent très pénible de télétravailler et bien souvent, c'est l'employeur qui doit batailler pour ne pas que les salariés reviennent au bureau parce qu'eux-mêmes, très franchement, en ont assez de cette situation et ont envie de retrouver les collègues, de retrouver la vie sociale. Et c'est aussi ça, le plaisir de travailler en entreprise.
Même situation dans les plus grandes structures, hein, sauf que là, la marge de manœuvre est moins élevée. Prenez le Crédit Agricole. Vendredi dernier, une note a été envoyée à tous les salariés du siège parisien pour leur dire « on continue comme avant », autrement dit, 5 jours de télétravail, dont 1 sur site si le salarié le demande. En revanche, le public est toujours à la traîne. Dans les ministères à Paris, on est plutôt sur du 3 jours télétravaillé. Il va donc falloir remettre un petit coup de collier.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Le Danemark rouvrira quasiment totalement lorsque les plus de 50 ans auront tous été vaccinés. La première ministre danoise présente un plan de réouverture des écoles, des commerces, des musées et des cinémas étalé sur 2 mois. Il faut dire que le pays est en régime de semi-confinement depuis janvier. Puis ça vient de tomber à l'instant. Vladimir Poutine vient de se faire vacciner contre le Covid-19. Voilà, c'est fait pour le chef du Kremlin.
Information importante, vous avez raison mon cher Christophe de la donner
les
avant,
donne l'exemple.
Avant la courte pause.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal Christophe Lamarre, on parle donc de cette enquête sur le meurtre de Magali Blandin. L'avocat de sa famille parle. Pour la première fois, il n'a jamais cru à la thèse de la fugue.
Cette mère de famille de 42 ans avait disparu subitement le 10 février, un mois sans nouvelles. Et comme souvent en pareil cas, les hypothèses se sont accumulées. Non, elle n'a pas disparu volontairement. Elle a été tuée par son mari. Jérôme Gaillard est passé aux aveux devant les enquêteurs. Il a été mis en examen pour meurtre. Et pour la famille de Magali Blandin, sa culpabilité était établie dès le départ. Maître William Pinault, avocat des parents et de la sœur de Magali Blandin.
Mes clients ont émis, dès le départ de l'enquête et la disparition de leur fille et sœur, l'hypothèse d'une intervention d'un tiers et singulièrement celle de Jérôme Gaillard. Ils l'ont toujours dit.
Cette fameuse plainte qui avait été déposée au mois de septembre par la fille de vos clients pour violence conjugale, classée sans suite manifestement, qu'est-ce que ça inspire vos clients ?
Ce serait faire beaucoup de grâce à Jérôme Gaillard de laisser entendre qu'il serait un homme violent, sous les coups duquel la femme serait tombée après une énième séance de violence qu'il aurait moins contrôlée que les autres. Ça n'est pas un homme violent colérique, c'est déjà terrible et insupportable, c'est un meurtrier qui a froidement élaboré la disparition et l'assassinat de sa femme. Ça n'est pas tout à fait la même chose.
Et par rapport à cette plainte qui a été classée sans suite, est-ce que c'est une erreur de la justice ?
C'est pas à moi qu'il appartient de le dire, mais le parquet de Rennes n'était pas tout à fait suspect de mollesse à l'égard des personnes suspectes de violence conjugale. Mes clients, en tout cas, n'ont pas de commentaires par rapport à cela, considérant que ça n'est pas tout à fait le problème de ce dossier.
Maître William Pinault, avocat donc des parents et de la sœur de Magali Blandin, au micro de Charles Guyard. Aux États-Unis, Joe Biden veut interdire les fusils d'assaut après la tuerie dans un supermarché du Colorado qui a fait 10 morts.
Le tireur de 21 ans a été inculpé, mais son mobile reste incertain. Ce massacre intervient une semaine après une autre tuerie dans un salon de massage asiatique. Là aussi, le meurtrier était âgé de 21 ans. Le débat sur la possession d'armes aux États-Unis refait donc surface et tout président qui cherche à limiter l'usage, à limiter leur usage trouve la NRA sur son chemin, le puissant lobby qui milite pour la libre circulation des armes. Mais Joe Biden semble cette fois bien décidé à agir et à convaincre.
Nous devons agir. Je n'ai pas besoin d'attendre une minute de plus et encore moins une heure pour prendre des mesures de bon sens afin de sauver des vies à l'avenir. Et j'exhorte mes collègues de la Chambre et du Sénat à agir. Nous pouvons interdire les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité dans ce pays. Le Sénat doit immédiatement adopter les 2 projets de loi validés par la Chambre qui comblent les lacunes du système de vérification des antécédents. Ce n'est pas et ne devrait pas être une question partisane, c'est une question américaine. Cela sauverait des vies américaines.
Alors, on verra jusqu'où va Joe Biden, puisque cette promesse, Barack Obama l'avait aussi prise à son époque. Joe Biden, le président américain, qui
réagissait. Après les tueries aux États-Unis, chaque président fait la promesse d'interdire les armes. Et régulièrement, la NRA, qui effectivement penche plutôt du côté républicain, mais qui a ses entrées aussi parmi les démocrates, est capable de faire pencher la balance en sa faveur.
Bien, le président qui réagissait, en tout cas après cette nouvelle tuerie, qui a donc fait, je vous le rappelle, 10 morts dans le Colorado.
Le football, le début de la campagne de qualification pour le Mondial 2022 pour les Bleus de Didier Deschamps.
Oui, le sélectionneur qui a sacrifié la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, puisque les Français affronteront l'Ukraine demain soir à Saint-Denis. Alors si on met de côté ce changement d'hôtel précipité, Cyril de la Morinerie, tout va bien pour les Bleus.
Oui, tout va bien, même si cela perturbe les plans de Didier Deschamps, qui n'aime pas les imprévus. Le séjour à Enghien-les-Bains a effectivement été annulé. Plusieurs employés de cet établissement, très appréciés des champions du monde, ont été testés positifs au Covid-19. Tous les bagages ont donc été réexpédiés à Clairefontaine. Les joueurs restent dans leur bulle, dans les Yvelines, où la préparation est chamboulée. Les Bleus n'ont pas pu s'entraîner au Stade de France, où il est toujours bon de prendre ses marques avant un grand rendez-vous. Mais le sélectionneur se veut philosophe.
Comme dans toute situation, on s'adapte. Et même s'il y a la satisfaction de pouvoir être ici, dans le cadre de Clairefontaine, où on a tout à disposition, mais l'inconvénient, le jour du match, d'avoir un trajet en bus un peu long, où parfois il peut y avoir des joueurs qui peuvent se sentir un peu perturbés. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais on va faire avec.
Pour le reste, les joueurs sont tous négatifs au Covid-19 et en bonne forme malgré l'enchaînement des matchs. Didier Deschamps estime que l'Ukraine est une bonne nation et qu'il ne faut pas se fier à la victoire fleuve 7-1 infligée en octobre dernier à la formation d'Andrei Shevchenko. Le sélectionneur devrait donc logiquement aligner sa meilleure équipe demain soir au Stade de France.
Et voilà, un petit changement d'hôtel, espérons que ça ne perturbe pas leur sommeil. En même temps, Clairefontaine, c'est un peu chez eux les Bleus. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. France-Ukraine demain soir à 20h45 et ce sera à suivre bien sûr sur Europe 1.
C'était le journal de Christophe Lamar, merci Christophe, à demain 18h. La météo avec Anissa qui nous annonce un soleil une nouvelle fois demain important qui va régner sur une bonne partie du territoire.
Quasiment tout le monde. En effet, grâce à l'anticyclone, on a du très beau temps depuis quelques jours maintenant. Demain matin, le temps est très lumineux dès le début de la journée, avec comme aujourd'hui dans le nord-est, sur la Bourgogne, le Val de Chaune et dans le sud-ouest, sur le Pays Basque en particulier, des brouillards matinaux. Ces nuages bas vont très vite se dissiper pour laisser place à un soleil qui va régner en maître. Alors merci à l'anticyclone pour ce beau soleil, mais demain l'anticyclone va se décaler vers l'Allemagne et du coup, il va laisser passer une petite perturbation. Donc en Bretagne et sur le Cotentin, le ciel sera un petit peu plus couvert avec quelques gouttes sur le Finistère. Les températures toujours fraîches demain matin, moins 4 à 7 degrés. Et puis dans l'après-midi, 12 à 20 degrés. Là, il fait bien plus doux. 12 à Dunkerque, 13 à La Rochelle, 15 à Ajaccio, 16 degrés pour Lille et Bastia, 17 à Paris et Colmar, 18 à Marseille, 19 du côté de Bordeaux et Clermont-Ferrand et 20 degrés à Cahors.
20 degrés à Cahors. Pas mal.
Alors, si vous voulez, j'ai commencé à me projeter. Semaine prochaine, on aura un petit pic de chaleur, un petit pic de douceur. Avec 20 degrés sur la moitié nord et 25 sur la moitié sud. On en reparlera.
On n'en dit pas plus. Vous nous raconterez demain. Merci Anissa. À demain 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.